Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle grâce de nous retrouver autour de cette parole. Le Seigneur Jésus a dit, il vous sera fait selon le nombre. Non ? Non, selon la foi. C'est important, hein ? Alors nous allons faire deux lectures, la première dans le livre des Nombres, au chapitre 21, du verset 4 au verset 9. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Amen. Gardez cette page et venez avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, s'il vous plaît. Nous reviendrons tout à l'heure, juste pour voir un verset, ou deux de ce texte que nous venons de lire, mais venez avec moi dans Jean, chapitre 3, verset 1er. Là, le Seigneur n'avait pas même un petit groupe, il avait affaire à une personne. Ce que nous voyons de l'Évangile, c'est que Jésus savait s'adresser à des foules immenses, à des petits groupes de 12, de 70, et parfois à un seul individu. Le Seigneur, il sait qui ce soir a besoin de sa grâce. Jean, chapitre 3, verset 1er. Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Et dans cette histoire, vous avez compris pourquoi j'ai lu le texte de Nombre 21, parce que Jésus fait allusion à cette histoire pour que cet homme comprenne comment Dieu s'y prend pour sauver les hommes. Partout sur la terre, partout, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que les gens essayent de changer les autres. Partout, on parle de changement. Partout, vous voyez que les hommes, ils veulent qu'il y ait du changement. On parle de nouvelles sociétés, de monde nouveau, de vie changée. J'ai même entendu parler de gangsters qui ont passé des années en prison et qui, à la sortie, s'étaient fait de la chirurgie esthétique pour être complètement changés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut les comprendre, hein? Oui, de toute façon, on peut les comprendre. Je pense qu'on n'a pas jugé ce genre de comportement, mais ce n'est pas pour ça que le cœur de ces hommes-là sont changés, bien sûr. Alors, ce texte que nous venons de lire nous parle de la nouvelle naissance. La Bible parle de la nouvelle naissance. Le docteur d'Israël a été très étonné lorsque Jésus lui en a parlé. Ce qui nous prouve qu'on peut être religieux, avoir une religion et être très étonné quand on aborde des problèmes aussi sérieux, aussi importants. C'est le fondement du christianisme. Certains peuvent dire, mais c'est quoi le christianisme? Eh bien, si vous voulez comprendre le christianisme, il faut d'abord commencer par comprendre ce qu'est la nouvelle naissance. Et ces paroles qu'on vient de lire font certainement partie des paroles les plus importantes qui doivent être entendues sur la terre. Vous avez lu le verset 5, on le relit? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il faut, verset 7, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif. C'est quelque chose de non négociable. Votre religion, ça ne veut rien dire. Du temps de Noé, est-ce qu'il y avait une religion? Est-ce que les gens priaient du temps de Noé? Est-ce que c'est écrit que les gens ont commencé à invoquer l'Éternel? À quoi leur a servi la religion? Ben, franchement, quand on voit, elle ne servait à rien. Votre religion, est-ce qu'elle vous sert? Si elle ne vous sert pas, eh bien, il vaut peut-être mieux commencer à vous poser les bonnes questions et à réfléchir aux paroles de Jésus. Est-ce que vous avez déjà été trompé? Est-ce qu'on vous a déjà trompé? Est-ce que vous avez déjà, par exemple, commandé quelque chose sur Internet? Ce n'était pas tout à fait le produit voulu. Je vois qu'il y a mon fils Lucas qui vient d'arriver. Il y a quelques temps de cela, il avait commandé un casque, c'est un nouveau casque. Et ma femme, quand elle a reçu le colis, elle a ouvert le colis discrètement et elle a mis à la place un vieux casque. Un vieux casque que Maëva, elle avait, un truc comme ça. Et ça fait qu'elle a tout refermé, elle a tout recollé, tac, tac, tac. Et on aurait dit que le colis, il n'avait pas été ouvert. Et puis on lui a dit à Lucas, tu sais, tu as reçu le colis. Ah bon, c'est bien. Puis tout d'un coup, on entend, mais je me suis fait avoir. C'est pas ce que j'ai commandé. Ce truc-là, j'en ai pas besoin. J'avais tout. Ah bon, t'es sûr et tout. Alors on l'a fait, puis après on l'a fait marcher. Bon, ça c'était une vanne, mais c'est pour vous dire qu'on a été trompé. On a été trompé. Et c'est vrai que c'est pénible lorsque quelqu'un nous a trompé, lorsqu'on a été trompé sur quelque chose que l'on a acheté, etc. etc. En politique, est-ce qu'on peut se faire tromper en politique? Bon, on comprend pourquoi. Tout ça, ce n'est pas mesquin, mais c'est pour vous dire qu'on peut vraiment se faire avoir. Mais en ce qui concerne le salut de votre âme, est-ce que vous accepteriez de vous tromper? Les pharisiens ont été sévèrement repris par Jésus. Parce qu'il leur a dit, vous leur empêchez de rentrer dans le royaume de Dieu. Il leur a dit, mais c'est normal, vous n'êtes pas rentré vous-même. Alors, c'est sûr que ça va être très difficile de faire rentrer quelqu'un dans le royaume de Dieu si on n'y est pas nous-mêmes rentré. Alors, il y a quand même des reproches très sévères. Jésus n'a jamais été dur envers les prostituées, envers les publicains, les péagers. Jésus a été plein de tendresse pour les amener à la foi. Mais par contre, Jésus a été d'une sévérité avec les pasteurs et les prêtres pour la simple et unique raison que c'était des hypocrites qui les empêchaient de rentrer dans le royaume de Dieu. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Là, ce qui est important, c'est que Jésus en parle. Il n'en parle pas à n'importe qui de la nouvelle naissance. S'il en avait parlé à Marie-Madeleine, voyez, on pourrait dire, bon, mais c'est clair, bon, c'est bien, elle en avait besoin, voyez. S'il en avait parlé à Zachée le publicain, bon, c'était quelqu'un qui, moi je pense qu'il avait besoin de changer certaines choses par rapport à sa vie. Ou le brigand sur la croix, est-ce que ça aurait été normal que sur la croix, Jésus adresse une parole de nouvelle naissance au brigand sur la croix? Oui, d'accord. Alors, peut-être que vous dites, mais moi je suis pas, moi je suis un petit peu bien, moi je j'ai peut-être pas besoin de ça, moi vous savez la nouvelle naissance, moi j'ai ma religion, etc. Mais Nicodème, qui était Nicodème? Qui était-il? C'était le docteur d'Israël, c'était le pasteur des pasteurs, donc c'était quelqu'un quand même. C'était un homme qui était considéré, c'était un docteur de la loi, comme je viens de l'entendre. C'était un théologien, c'était, comme on dirait aujourd'hui, un homme d'église, un homme peut-être qui était irréprochable, de qui on n'avait rien à redire. Et voyez, et pourtant cet homme considéré, cet homme qui connaît la parole de Dieu, cet homme s'entend dire combien il est important que déjà lui-même, il découvre ce qu'est la nouvelle naissance pour entrer dans le royaume de Dieu. On relit le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, c'est sûr que c'est étonnant, ça peut étonner beaucoup de gens, quand on a une religion, quand on a été baptisé, c'est très 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 étonnant de s'entendre dire, Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est quelque chose d'impératif. Alors il explique ce qui est né de la chair et de la chair. Quand nous sommes nés sur la terre, quand nous sommes nés physiquement, eh bien, nous, qu'est-ce que nous étions ? Nous étions déjà des pécheurs. Nous sommes nés pécheurs. Et la Bible dit que la chair, là pas dans le sens de ce qui est contraire à Dieu, mais la chair dans le sens de l'homme charnel, l'homme, l'humain, il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. La chair ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Paul le dira, ce qui est bon n'habite pas à moi. Est-ce qu'il y a de bonnes choses en vous ? Est-ce qu'il y a de bonnes choses en vous ? Est-ce que vous essayez de faire le bien ? Est-ce que c'est important ? Peut-être que tous vous pouvez dire, moi, je suis pas si mauvais que ça quand même. Puis moi, j'essaie de faire une bonne action tous les jours. Il y en a qui le disent, moi je fais ma béa tous les jours, hein, ma bonne action. La Bible, elle va très loin là-dedans, elle dit qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Moi, la première fois que j'ai lu ce verset, j'ai trouvé que c'était vraiment sévère. Bien sûr, maintenant, je comprends mieux ce que ça veut dire. Dans le psaume 14, tiens, on va le lire ce texte. Psaume 14, versets 2 et 3. Regardez ce que Dieu dit. Alors sur le coup, ça fait peine un peu parce qu'on ne comprend pas. Quand on lit ces choses pour la première fois, c'est un peu frustrant. Parce qu'on dit, mais quand même, jusque-là, c'est pour nous faire prendre conscience de la misère dans laquelle le monde se trouve. Psaume 14, versets 2 et 3. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Le verset 3 nous intéresse. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est pas un qui fasse le bien. Alors ne cherchez pas, mais dans Ésaïe 64, il est dit, à cause de notre misère, à cause de notre péché, nous sommes tous comme des impurs, et notre justice, donc ça fait allusion à notre religion, notre justice est comme un vêtement souillé. Ça, vous voyez, ça fait quand même mal au cœur quand on le lit pour la première fois. Quelqu'un qui s'appuierait sur sa justice, sur ses œuvres de justice, sur tout ce qu'il a pu faire pour Dieu, consciencieusement. Puis, mais qu'est-ce que c'est cette affaire ? Qu'est-ce que la Bible dit ? Qu'on est tous souillés, que même la justice d'un homme, la justice religieuse, la propre justice, c'est comme un vêtement souillé. Que notre péché soit comme un vêtement souillé, moi je veux bien. Mais que notre justice soit comme un vêtement souillé, moi je vous avoue que ça fait quand même un petit peu mal. Alors c'est vrai que la Bible parle de notre première naissance. Lorsque nous sommes nés inoculés par le péché. Voilà. Alors quelqu'un m'a dit, mais moi quand même, quand j'étais tout petit, on m'a baptisé et moi j'ai mon nom inscrit dans le registre d'une église. Moi aussi, le mien, il est dans un petit village dans le département du Tarn. Il y a mon nom dans le registre d'une église, d'une autre dénomination. Alors, est-ce que ça faisait de moi un homme sauvé ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on me l'a lu. Pour être sauvé, il faut une deuxième naissance. Alors, non pas physique, bien sûr, mais une naissance spirituelle. Et il faut pour cela que votre nom soit écrit, non pas sur le registre d'une église, mais que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. La Bible en parle. Des hommes et des femmes qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie. Alors quand est-ce que dans le ciel, votre nom peut-il être inscrit dans ce livre de vie ? Quand est-ce que notre nom peut être inscrit dans un livre de vie ? On lit un verset dans l'Apocalypse ? Apocalypse 21, verset 27. C'est sur la Nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux, la Nouvelle Terre. Peut-être que cela, pour certains, c'est un petit peu virtuel. Mais croyez-moi, c'est quelque chose qui arrivera pour tous ceux qui auront été fidèles dans les voies du Seigneur. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Voilà. Alors, votre nom est-il inscrit dans le livre de vie de l'agneau ? Alors c'est vrai que par rapport à ce sujet, c'est quand même assez sévère cette affaire. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Si on a eu une justice, une religion et tout ce qu'on voudrait, Dieu la considère comme un vêtement souillé. On vous dit, mais quand même, c'est moi j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, c'est pas ma faute, c'est la faute à Adam. Il n'avait pas qu'à pécher avec Ève. Et c'est vrai que beaucoup de gens pourraient se contenter de régler le problème spirituel en disant, mais moi j'y suis pour rien, c'est pas ma faute. En vérité, nous ne sommes pas perdus parce que nous sommes pécheurs. Mais nous sommes perdus parce que nous refusons le salut de Dieu. Parce qu'en vérité, comme nous sommes tous pécheurs, l'affaire, elle est réglée. Et le problème n'est pas de savoir si un est meilleur que l'autre, si quelqu'un est plus juste par rapport à sa religion. C'est pour ça que Dieu dit, mais toute notre justice, elle ne sert à rien. Notre propre justice. La question, elle est de savoir, est-ce que vous voulez accepter le salut? Est-ce que vous voulez naître de nouveau? Alors Nicodème, qui est quand même, c'est pas imbécile, excusez-moi l'expression, il dit, mais comment ça se fait? Comment ça peut se faire? Lui, il réfléchit avec sa tête, comme nous le faisons en principe, ce qui n'est pas plus mal non plus. Hein. Il veut comprendre. C'est quoi cette nouvelle naissance? Comment un homme peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? Alors, il aurait dû savoir quand même, parce qu'il y a des textes dans Ézéchiel qui en parlaient. Et voyez, tout docteur d'Israël qu'il était, il n'était pas quand même au courant de tout ce qu'il aurait dû connaître. Bien sûr, c'est le cas de chacun de nous, mais que Dieu nous accorde de connaître davantage de choses dans la parole de Dieu. Alors la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose qu'on fait, nous. C'est quelque chose qu'on reçoit. Le salut, vous ne pouvez pas l'accomplir vous-même. Le salut, c'est quelque chose qui a été déjà fait. Ça a été fait pour vous. Et Jésus répond à la question « comment ?» Par le « comment », il dit « mais comme ?» Vous avez vu de quoi il parle ?« Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. » Parce que cette histoire, d'après vous, est-ce que Nicodème la connaissait ? Bon, il connaissait pas Ézéchiel, mais il connaissait le livre des Nombres. Comme Moïse, il va l'amener sur son terrain. Vous savez que Jésus avait cette pédagogie, il n'a pas pris un texte qu'il n'aurait pas pu comprendre. Il va l'amener sur un terrain qu'il connaît très bien, sur le terrain de la loi de Dieu. Et il est en train de lui expliquer ce que Jésus, lui, il est pour cet homme. Les histoires, vous les connaissez. On connaît la naissance de Jésus. Pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Pourquoi les gens fêtent-ils Noël? Je suis sûr que si on demandait à des gens, mais pourquoi Jésus est-il venu sur la terre? Il y a beaucoup de gens qui seraient incapables de vous expliquer l'œuvre de Jésus, de sa naissance, à sa mort et surtout à sa résurrection. Alors vous avez lu dans Nombres chapitre 21. Alors qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu. Au verset 4, ils étaient délivrés de l'Égypte, ça veut dire qu'ils étaient délivrés du monde, et Dieu les fait traverser par une période difficile. Est-ce que ça peut nous arriver que Dieu nous fasse passer par des périodes difficiles? Oui. Ne vous inquiétez pas, ça arrive à tous. Alors le peuple s'impatienta en route, il parla contre Dieu, et vous avez vu comment ils vont parler de la manne à la fin du verset 5. Leur âme était dégoûtée de cette misérable nourriture. Quand on voit comment Dieu parle de la manne dans les autres textes, le pain des grands, le blé du ciel, quand on voit comment on doit parler de la parole, tiens donc, comment parlez-vous de la parole de Dieu? Ça, c'est très révélateur. Est-ce que la parole de Dieu, c'est le pain du ciel? Ou est-ce que c'est la parole religieuse qui nous fatigue? Notre âme est dégoûtée. Et quand on commence à être dégoûté de la parole de Dieu, je peux vous dire que ça ne va pas aller. Et l'œuvre de Dieu ne pourra pas se faire. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu s'est mis en colère. Il est dit que Dieu s'est mis en colère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des serpents brûlants sont arrivés d'un peu partout, on ne sait où. Et tous ceux qui ont été mordus ont commencé à mourir. Parce que ce venin, en fin de compte, représentait le péché du peuple de Dieu qui refusait la direction de Dieu, la nourriture de Dieu. Et là, Dieu, parce qu'ils vont bien réagir, par contre, ils vont réagir au verset 7. Vous voyez, le peuple vient à Moïse, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Alors voyez, ça c'est une clé. Ça c'est une clé dans la Bible. Quand, quoi que ce soit qui ait pu se passer, il y a une bonne réaction. Parce que c'est vrai que on aurait peut-être fait comme eux, je pense. Mais par contre, c'est très bien, il y a une réaction, et dès qu'il y a une réaction de repentance, dès qu'il y a une réaction, je me suis trompé, j'ai commis un péché, j'ai fait le mal, de suite Dieu donne une solution, de suite Dieu fait une promesse. Vous avez vu? De suite, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, place-le sur une perche, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Vous savez, ça va mal, les choses vont aller de plus en plus mal. Enfin, si vous avez lu les prophéties de Jésus dans Matthieu et dans Luc, si vous avez lu l'Apocalypse, vous savez que les choses iront de plus en plus mal. Il n'y aura aucun changement, que la droite passe, que la gauche passe. Ce n'est pas un problème de politique, c'est un problème spirituel. C'est comme le problème en Israël, ce n'est pas un problème de colonie, ce n'est pas un problème géographique, ce n'est pas un problème économique, c'est un problème spirituel. Et c'est un problème qui ne se résoudra que d'une manière spirituelle. Et là, ce qui nous intéresse, c'est la réaction. Quelle est votre réaction ? Quand vous vous rendez compte que ça ne va pas, quand vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, Dieu fait des promesses, il en fait, même quand ça va mal, de suite, il y a une promesse. Dieu voulait intervenir miraculeusement, de suite, dans la vie de ceux qui étaient mordus, mais il y avait une condition, il y a toujours une condition. Dans toutes les dispensations, dans toute la Bible, que ce soit la loi, la promesse, l'époque des rois, que ce soit la dispensation de l'innocence, de la conscience, de la grâce comme aujourd'hui, il y a des conditions. Là, il fallait que Moïse fasse une perche, sur cette perche qui mette un serpent d'airain. Et voilà, il leur dit, écoutez, il fallait qu'il l'élève. Et tous ceux qui avaient été mordus, s'ils le regardaient, ils étaient guéris. Alors, il y en a qui veulent dire, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et ils sont peut-être morts. Et certainement que ça a dû arriver. La promesse, elle est là. Regardez le serpent. Et Dieu honorera cette foi-là. Il y a une foi à avoir. Vous allez me dire, mais quand même, en regardant un morceau d'airain sur un morceau de bois, être guéri, ça fait ridicule. Et c'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Comment ça ? Comment on peut être sauvé ? De la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain sur cette perche, et tous ceux qui l'ont regardé étaient sauvés, Dieu a honoré la foi de ces Hébreux dans le désert qui étaient mordus par ces serpents, et Dieu les a guéris. Et oui, et Nicodème est en train d'apprendre que pour être sauvé, pour naître de nouveau, il faut regarder à celui qui a été élevé sur le bois de la croix, qui a pris notre péché. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix ? Car ce serpent, le serpent sur cette perche, c'est l'image de la malédiction. Et Jésus, sur la croix, a été fait malédiction. Vous savez, on est loin du petit Jésus à Noël. Jésus, sur la croix, a été fait malédiction. Lorsqu'il a été mis en croix, il a pris sur lui votre venin. Le venin qui vous a été inoculé à votre naissance physique, le venin qui nous a été inoculé à la naissance, eh bien, ce venin-là, le Seigneur Jésus l'a pris sur lui, sur le bois de la croix. C'est pour ça que Galates dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Celui qui ne connaissait pas le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Quand Jésus-Christ a été crucifié, il y a une parole d'Ésaïe 53 qui s'est accomplie, l'Éternel a mis sur lui les péchés de nous tous. Il est devenu péché. C'est pour ça que sur la croix, Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Il a été fait malédiction. Il y a eu des heures de ténèbres pendant plusieurs heures, pendant 3 heures, il y a eu au moins des ténèbres sur la terre. Et pendant ces 3 heures, Jésus-Christ a pris votre malédiction. Pourquoi il fallait regarder le serpent ? Eh bien parce que c'était un acte de foi. Qui ce soir va faire un acte de foi ? On peut lire ce texte dans Jean 6, 40, un dernier texte pour terminer, Jean chapitre 6, verset 40. Là, il n'y a pas besoin de chercher Moïse dans le désert, vous le comprenez bien. Mais regardez, aujourd'hui, qui veut aller au ciel ? Qui veut être sauvé ? Faut-il être pentecôtiste ? Faut-il être évangélique ? Faut-il être protestant ? Non, ça ne sert à rien. Que faut-il faire ? Jean 6, 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Quiconque voit le Fils. Voilà, sur la croix, vos péchés ont été pris. Parce que nous étions tous des pécheurs. Et Jésus, sur le bois de la croix, a porté votre péché. Alors vous allez me dire, mais comment ça peut me donner une nouvelle vie ? Parce que c'est la question qu'il faut qu'on se pose en vérité. Comment, c'est ça la nouvelle naissance ? Mais comment regarder celui qui voit le Fils ? Oui, mais il faut regarder, peut-être pas avec les yeux physiques, mais avec les yeux du cœur. C'est ça que Dieu veut. Est-ce que vous regardez avec les yeux de votre cœur? Qu'il illumine les yeux de notre cœur. Vous savez qu'on a des yeux, mais on a des yeux spirituels. On a des oreilles spirituelles. Comment voyez-vous les choses à venir? Il faut le déclarer par la foi. Il vous sera fait selon votre foi. Est-ce que vous le croyez que Jésus-Christ, sur le bois de la croix, a porté vos péchés? Nicodème comprenait très bien. Nicodème, vous voyez, il avait besoin, lui aussi, de cette révélation. Il savait que Jésus, c'était quelqu'un. Il avait compris, il a été de nuit parce qu'il était embarrassé par rapport aux collègues. Qu'est-ce qu'ils vont dire s'ils me voient? Oui, n'oubliez pas de verrouiller les portables. Hein. Il faut déclarer par la foi que Jésus-Christ est mort à votre place. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort sur le bois de la croix à votre place? L'évangile, c'est ça. Comment ça? Parce que vous savez, par exemple pour les Juifs, Jésus ne peut pas être le Messie. Parce que justement, il est dit dans la loi, « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Si Jésus était Dieu, il n'était pas possible qu'il soit maudit. C'est pour ça qu'ils n'acceptent pas le Messie. Parce que ce n'était pas possible. Eux, ils attendaient le roi. C'est pour ça que quand il est entré à Jérusalem, ils l'ont acclamé comme le roi. Pour eux, ils venaient chasser les Romains. Eux, ils voulaient un libérateur. Ils ne voulaient pas un sauveur. Eux, ils voulaient être débarrassés de Rome. Ils voulaient un roi, mais un vrai roi. Un roi avec des ministres qui débarrassent Jérusalem de Rome. C'est pour ça qu'ils l'ont, juste après dans la foulée, ils l'ont rejeté. Alors, je vous parle d'avoir des yeux spirituels, vos yeux sont-ils fixés sur le Seigneur Jésus-Christ? Parce que cette prédication nous oblige à prendre une décision, dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas ce qu'est devenu Nicodème, mais une chose est certaine, il savait qu'il avait un choix à faire. Et vous avez un choix à faire. Vous ne devez pas dire, comme certains viennent voir, « Ah, monsieur Gros, vous savez, j'étais catholique, maintenant je veux devenir évangélique. » Je dis, « Mais non, ça ne sert à rien. » C'est pas la peine de changer d'aquarium. Oui, ce qu'il faut, c'est changer de cœur. Il y a des gens, ils changent d'église. Ah, c'est mieux, c'est plus sobre. Il y a ceci, il y a cela. Mais moi, je leur dis aux gens, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ne changez pas de religion. Il faut changer de cœur. C'est ça qui est important. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand est-ce qu'un homme naît de nouveau? Eh bien, il le sait, en principe. Il le sait quand il est sauvé. Il le sait. Quand on passe des ténèbres à la lumière, laissez-moi vous dire qu'on le sait. Et voyez, moi je bénis Dieu que ce soit enfin arrivé à Nicodème, parce que c'était quand même quelqu'un. Hier j'entendais aux informations qu'il y a un prêtre en Irlande qui a fait une gourde, je ne sais pas si vous avez entendu, avec une clé USB, il a passé des choses qui n'avaient rien à voir avec la piété, il s'est fait avoir par ce qu'il regardait, et je me disais, si cet homme il était né de nouveau, il serait jamais tombé dans ce travers. Tous les hommes doivent naître de nouveau. Que vous soyez des pauvres, riches, connus, inconnus, religieux, que vous ne le soyez pas, athées, etc. Il vous faut naître de nouveau. Et peut-être quelqu'un se soit dit, mais moi je veux faire une expérience aussi. Je crois que Nicodème voulait un contact avec le Seigneur Jésus. Et il l'a eu. Il l'a fait de nuit, parce que bon, ça le gênait, mais il l'a fait quand même. Alors, ne jugeons pas la démarche. Plutôt, remercions Dieu pour tous ceux qui font la démarche, quelle que soit la façon dont ils la font. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui veut faire cette expérience, vous la ferez. Il vous faut lui parler avec votre cœur. Jésus a su s'adapter à la théologie de Nicodème et il s'adaptera à votre cœur. Il s'adaptera à votre vie. Mais il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous voulez aller au ciel, il vous faut naître de nouveau. La conversion, c'est passé par la repentance. Seigneur, je me repens, moi aussi je suis un pécheur. Je veux lever les yeux. Vous voyez, ça fait presque peine. Vous voyez, ceux qui ont été sauvés dans le désert, il fallait qu'ils regardent, il fallait qu'ils lèvent les yeux. Il fallait qu'ils lèvent les yeux. Ça ne vaut pas la peine de lever les yeux dans ce monde un petit peu angoissé et malheureux. Ça ne vaut pas la peine de lever les yeux et dire, Seigneur, donne-moi quand je lis ta parole de lever les yeux vers toi. Je veux vivre cette vie nouvelle. Je veux la revivre. Je veux la redécouvrir. Vous savez, Dieu, il va vous aider. Moi, je n'ai jamais vu Dieu repousser quelqu'un. Personne. C'est nous qu'on le repousse. Et tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, ce n'est pas le fait que Dieu nous ait repoussé, c'est le fait que nous l'ayons mis de côté. Tout ce qui se passe sur la terre aujourd'hui,
ne vient que de là. Ce n'est pas Dieu qui l'a voulu, c'est l'homme qui l'a provoqué en rejetant la miséricorde du Seigneur. On ferme les yeux quelques instants, vous voulez bien ? Je ne sais pas quelle décision a pris Nicodème, j'en sais rien. La Bible ne nous le dit pas, mais il a dû en prendre une. Cet homme aujourd'hui, bien sûr, est parti de la terre depuis longtemps. Est-il dans le paradis ? Est-il dans le lieu de tourment ? Nous aussi, nous partirons de cette terre un jour. Où irons-nous ? Que deviendrons-nous ? Cela ne vaut-il pas la peine de réfléchir et de regarder le Fils, le Sauveur du monde ? Alors je vais prier pour vous. Peut-être quelqu'un demande à Dieu sa grâce. Jésus n'a pas, vous avez vu, n'a pas méprisé Nicodème. Il y a juste dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Acceptons les reproches. Les reproches de Dieu, ils ne sont pas faits pour nous écraser, ils sont faits pour nous éclairer. Peut-être vous dites, mais moi j'ai besoin ce soir de la grâce de Dieu. Je veux cette nouvelle naissance. C'est vous qui naîtrez de nouveau. C'est Dieu qui vous l'accordera, mais c'est vous qui déciderez de fixer les yeux sur Jésus et d'accepter les conditions. Ce que Dieu demande, vous pouvez tous le faire. Dans le désert, même ceux qui étaient piqués par le serpent, lever les yeux, ce n'était pas un gros effort certainement. Mais il fallait qu'il le fasse. Vous devez donner votre cœur à Jésus. Si vous voulez aller au ciel, n'oubliez pas, vous ne pourrez le faire que en acceptant Jésus-Christ, qui est mort sur le bois de la croix pour vos péchés. Et avant de prier, y a-t-il quelqu'un, on reste les yeux fermés, quelqu'un qui voudrait peut-être se lever à sa place et dire, j'aimerais qu'on prie pour moi. Je voudrais que Dieu m'aide. J'ai besoin de son secours. Je veux naître de nouveau. Je veux redécouvrir cette vie nouvelle. Je veux réapprendre à fixer mes yeux sur Dieu. Jésus l'a dit, quand vous verrez toutes ces choses, redressez votre tête. Dieu nous apprend à fixer les yeux sur lui. Alors je vais prier. Si quelqu'un veut se lever, levez-vous. Je crois que Dieu vous aidera. C'est entre vous et Dieu, c'est très simple. Demandez de l'aide au Seigneur. Faites un acte de foi et je prierai pour vous. Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui sauve. Tu nous as laissé ta parole et tu nous as annoncé tout ce que nous avions besoin de savoir. Tu as dit dans les prophéties que tu nous avais tout annoncé à l'avance. Alors Seigneur, nous te remercions d'avoir tout annoncé à l'avance pour que nous sachions comment faire pour parvenir jusqu'à toi. Tu as toujours honoré la foi. Alors Seigneur, honore la foi de ceux qui viennent de se lever. Fais-leur grâce, Seigneur. Que ta bénédiction repose sur leur cœur. Ouvre les yeux de nos cœurs, oui Seigneur. Les oreilles de notre cœur, afin que nous entendions, que nous comprenions, que nous puissions vraiment voir ce que tu veux que nous voyons lorsque nous lisons ta parole. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.